démarrer 3 secondes.
Voilà. Aujourd'hui, donc, pour ce Speed Torah de Erev Shavuot, donc c'est Shabbat Bamidbar, mais en même temps Erev Shavuot, on va étudier un texte du Sfat Emet. On a très rarement étudié du Sfat Emet. Donc, le Sfat Emet, c'est le premier rabbi de Gour. D'accord ? Le Gour, c'est une chassidut. Et le Sfat Emet s'appelait Rabbi Yehuda Arielev Migour. Donc, les guerres, c'est une chassidut très puissante, très riche aussi, qui ont un très grand Beta Midrash à Yerushalayim. Mais, indépendamment de ça, c'était des grands maîtres de la chassidut. Et donc, le Sfat Emet, c'est souvent très profond, c'est des fois même difficile à comprendre. Aujourd'hui, le texte qu'on va étudier, il est un peu long, on fera peut-être pas tout, mais il est relativement simple et très intéressant, et il parle de Matan Torah. D'accord ? Vous savez que quand il y a eu Matan Torah, il y a eu un grand dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Il a ouvert, c'est marqué les Shivarekim, il a ouvert les sept cieux, il y avait du feu, il y avait du bruit, juste avant Matan Torah. Au moment de Matan Torah, il y a eu un grand silence, quand c'est marqué, même les oiseaux, ils sont arrêtés de chanter. Mais avant Matan Torah, c'était vraiment avec beaucoup, beaucoup d'effervescence. Et la suite de Matan Torah, c'est qu'il y a eu le Hegel. Okay ? Et donc, Moshe Rabbeinu, en descendant de Har Sinai, il a cassé les tables, il a prié, etc. Et finalement, à Kadosh Baruch Hu, il a donné les deuxièmes tables le jour de Kippour. Tout ça, on connaît. Et Rashi, il dit quelque chose d'étonnant. Il dit, comment ça se fait que les premières tables ont été cassées? Eh bien, parce qu'elles ont été données avec beaucoup de faste et beaucoup de bruit. Et c'est ce Rashi que vous avez ici, le Rashi, « En lecha yafe minat sniout ». Il n'y a pas plus beau que la pudeur et la discrétion. Rashi dit, tu vois, tout ce faste et toute cette mise en scène, entre guillemets, qu'il y a eu pour Matan Torah, finalement, ça n'a servi à rien. Et ça a fait simplement que les tables ont été cassées, alors que les deuxièmes tables, elles ont été données en silence, ok ? Personne n'a rien dit, bon alors on peut mettre là-dedans un peu d'Aïnara si vous voulez, bien que c'est marqué aussi qu'il y avait l'Aïnara, mais le fait que ça a été donné dans la pudeur et la discrétion, ça a fait perdurer les choses, ok ? Donc ça c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre, en fait ce Sfat Emet, il est tiré de la paracha Kitissa, il n'est pas sur notre paracha de Bamidbar ni sur Shavuot, il a été dit sur Kitissa, mais il est tellement beau par rapport en introduction à Shavuot que je pensais que c'était important de le faire maintenant. Alors le Sfat Emet, regardez ça à la couche, avec caché, première ligne, c'est difficile à comprendre. Lama lo natan gamarishonot betzina. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il n'a pas donné les premières tables betzina en silence? Si Bémet, c'est tellement important la pudeur, etc., ok? Et qu'il a fallu casser les tables pour se rendre compte. Alors, est-ce que moi je donne la réponse? C'est pas ça la réponse. On aurait pu imaginer que c'est ça la réponse. Sauf que, pour un homme, c'est vrai. C'est-à-dire un homme, par exemple, souvent il fait un premier mariage, il fait papa, il fait des fanfares. En deuxième mariage, il dit bon, reste tranquille. Oui, c'est pas besoin de faire de la fanfare. T'as vu ce que ça a donné le premier. Mais ça, c'est pour un homme. Il a besoin de l'expérience. Mais Akadosh Baruch Hu, il connaît les choses. Et il sait très bien la règle que En lecha yafe minat sniout, qui a pas plus beau que la pudeur. Alors, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a pas fait les choses en calme, etc.? C'est vrai que chaque midrash qu'on voit, et il a ameuté les nations, et il y avait le monde entier était au courant de Matan Torah. Enfin, c'était un événement cosmique, en fait. Et finalement, tout ça pour nous entendre dire que, bon, finalement, c'est beaucoup de bruit pour rien et qu'il valait mieux le faire en silence comme les deuxièmes tables. Voilà. Il dit, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait ça comme ça dès le départ? Lama lo natan gamarishon betzina. Ah, regardez bien, qu'est-ce qu'il dit? Aval bevadai. Mais il est certain. Shneem tzrichim. Les deux sont nécessaires. C'est quoi les deux? Le faste et la pudeur. Chez bevadai, il est certain. Barishonot, que dans les premières tables, Ayub bnei Israël bechinat tzadikim gmurim. Que les bnei Israël, ils étaient au niveau de tzadikim gmurim. C'est-à-dire que au Har Sinai, c'est marqué toute la zoamat anachash, c'est-à-dire même le venin du serpent originel, hein, ce qu'on appelle le Yetzara, avait disparu d'eux, et il n'est revenu qu'après. Donc ils étaient une très très grande madriga, comme la madriga d'Adam Harishon avant le Chet au moment de Matan Torah. Et donc, ve'ayu muchanim le'atot kol abruim elavid barar. Alors, il faut se méfier, le Sfat Emet, même si c'est un acharon, il a un langage, bon, des fois un peu difficile, mais surtout, c'est très, ses enseignements foisonnent d'idées. C'est-à-dire, c'était un esprit très lumineux, et quand il disait quelque chose, au milieu, il y avait plein d'idées qui jaillissaient. Donc il y a une ligne directrice dans son Dvar Torah, mais au milieu, il met plein de petites choses qu'on peut développer. Donc en tout cas, il dit que les Bnei Israël au moment de la Torah, ils étaient des tzadikim gomorim, et alors, par ce fait-là, ayu mukhanim, ils étaient prêts, quatrième ligne, les atot a influencé quand la brouhim toutes les créatures du monde et la vie de Barar. C'est-à-dire, ils étaient tellement enflammés, oui, que pour eux, ils auraient voulu amener tout le monde à la Torah. Bon, les goïms n'ont pas voulu, mais ils étaient tellement pris sous le charme de ce matin de Torah que si on leur avait demandé, eh ben, ils seraient allés chercher tout le monde, regarde, ou le farsem, pour dévoiler Kevod Malchuto, l'honneur de la royauté de Barar, Baolam, dans le monde de Pharasia, en public. Ça veut dire, ils étaient vraiment comme une madriga, comme ça, d'enflammement. Kacher, kar, aya, retson, avinu, Avraham, bitrila. Comme était d'ailleurs la volonté d'Avraham avinu au départ. Ça veut dire, ils avaient cette madriga, que quand quelqu'un, il découvre quelque chose, oui, il est tout feu, tout flamme, il aimerait faire partager, et ça vous fait penser à quoi? Ça fait penser au Baal Tshuva. Sur le Baal Tshuva, quand il découvre les choses, il a envie que tout le monde fasse Tshuva, c'est tellement beau, il est illuminé. D'accord? Mais ici, il le dit dans un sens positif. Ça veut dire que on peut être illuminé quand on est Baal Tshuva parce qu'on découvre les choses. Mais parfois, on est illuminé parce qu'on a vu la vérité. D'accord? Alors, c'est possible que le Baal Tshuva aussi, il ait vu la vérité et qu'il a cet éclair-là. Mais au moment où on découvre ça, on est dans un élan de partage, comme l'était d'ailleurs Abraham Avinu, qui était un illuminé. Ok? Achen. Cependant, et ça, c'était les premières tables. Kacher Amalek Aracha Imar Shemo. Lorsque Amalek, le Raja Imar Shemo, itil ses ors, il a mis la levure, Baïssa, dans la pâte. C'est une expression consacrée. Mettre la levure dans la pâte, c'est transformer le chametz, la matza en chametz. Et donc, c'est donner l'entrée au Yetzerara. Et Veikev à Tova Mikola Umot, il a empêché le bien des nations, puisque en réalité, le plan initial ou l'objectif aurait été que les Bnei Israël soient une lumière pour les nations et qu'ils diffusent ce message d'Aseret à Diberot, mais l'intervention d'Amalek, à la fois, elle a refroidi les Bnei Israël et elle a causé également qu'elle a refroidi les nations et que cette diffusion n'a pas pu se faire. Mais Ikeva Tova Mikola Umot, il a empêché la diffusion de ce bien aux nations, à Chernit, Roaliado, qui ont été repoussés à cause de lui. Que moi, j'ai Neymar, comme c'est marqué, Réchit Goïm Amalek, c'est le prémisse des nations, c'est le début des nations, c'est-à-dire c'est lui qui a donné l'orientation des Goïm dans leur relation avec la Torah et les Bnei Israël. Ou que moi, j'ai Amarti, Bema Komacher, comme j'ai développé ailleurs. Et alors, que l'entrée en scène de Amalek, elle a refroidi tout le monde. Venaflu gam bnei Israël, et ils sont tombés également les bnei Israël, mais itla avut arishon, de leur première flamme, atchegaram, jusqu'à ce que ça a causé, shebaou acharkar, liklal cheta egel, qu'ils arrivent à faire la faute du veau d'or. La reine, c'est pour cela, à cause de ce processus qui est l'enflammement, le désenchantement et la chute. C'est pour cette raison, il y a eu après ce conseil de la pudeur. C'est-à-dire ça ne sert à rien d'être enflammé et d'exciter les nations pour après retomber, faire retomber la pâte et retomber dans le veau d'or. Il vaut mieux faire les choses discrètement sans exciter le regard des autres. D'accord? Donc là, il a décrit un peu le paysage. Il dit, regardez bien.
Là, il se place du côté du genre de l'homme, il se place pas du côté de la chair.
Oui, regarde, c'est ce qu'il va dire. Om mikol makom. Cependant, c'est-à-dire, c'est vrai, on a l'impression que la tzniout, c'est un pis-aller par rapport, oui, à... Enfin, ça va dépendre. C'est une réponse à l'enflammement. C'est-à-dire, l'enflammement, c'est parce qu'il y a eu l'enflammement, et finalement, ça a excité les nations, ça a excité Amalek, que finalement, ça a retombé. Il dit, Mikol Makom, cependant, Gamz et Emet, c'est aussi vrai qu'il oule Itla Avut Akodem sans la flamme initiale. Itla Avut, c'est la flamme. La Hava, c'est une flamme. Loulé Itlavouk Akodem, sans la flamme initiale, Bepirsum, dans cette, ce dévoilement, Loaya Acharkar Yecholet, on n'aurait pas eu la possibilité, Lelech Bederer Tzniout, de marcher dans la pudeur. Ça veut dire qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'avoir une démarche discrète et pudique dans Derech HaTorah si au départ il n'a pas été enflammé. C'est-à-dire c'est la flamme qui va nourrir le derrière de pudeur. Mais on ne peut pas proposer directement un chemin caché, un chemin, si tu veux, où y ait pas de, où, qui ne soit pas dévoilé aux autres. D'accord ? Ça veut dire qu'en réalité, la Hitlavut, cette flamme initiale, elle est dangereuse mais nécessaire à un cheminement par la pudeur. Et en réalité, c'est très intéressant parce que ça éclaire beaucoup de domaines. Ça éclaire... bien évidemment, le domaine du Baal Tshuva, où on est souvent un peu énervé de voir les Baal Tshuva tellement enflammés, tellement un peu euphoriques, si tu veux. Ou bien on a parfois cette problématique avec les enfants, que quand on a nous pris du recul les adultes, et on a un derrière plus calme, plus discret dans sa Avodat Hashem, et qu'on voit des enfants ou des jeunes s'enflammer, alors on voudrait leur apprendre le derrière Hatzniut, puisqu'on sait que le derrière Hatzniut, c'est le bon. Et en réalité, le grand chidouche ici, c'est que le derech hatzniut ne peut se construire que s'il y a une flamme initiale. Et donc, les deuxièmes louchot qui ont été donnés avec pudeur ne peuvent prendre leur place, ne peuvent s'inscrire que si au départ, il y avait un don de la Torah avec flamme. Vous comprenez ? Ça veut dire c'est sur cette flamme-là qu'on peut construire un vrai derech. En fait, c'est comme, ça fait penser, enfin, ça donne, ça éclaire plusieurs éléments. Ça fait penser quand on fait un feu. Vous allez faire des merguez, dit Louis. Il faut faire un grand feu avec des immenses flammes. Et puis après, pour que les braises, elles restent, et là-dessus, tu peux cuire. Ça m'a fait penser aussi... Oh.
Bon, quand
oui, chacun a ses références. Hein. Mais ça m'a fait penser au dernier barbecue merguez qu'on a fait. Non, aussi à Lac Bormer, c'était comme ça. Ça me fait penser également à toujours un phénomène qui est étonnant. C'est le phénomène de Ouman. D'accord ? On envoie des gens à Ouman et ils s'excitent, ils s'éclatent, tu les vois, ils montent au plafond. D'accord ? Mais en fait, on se dit, mais c'est pas ça le derech HaTorah. Il faut un peu de pudeur, un peu de retenue. C'est quoi ces histoires de monter sur les tables de... Et en réalité, c'est ce qu'il est en train de dire. Je fais pas de pub pour Ouman, mais juste ça m'a donné cette image qu'effectivement, il y a besoin de chauffer les gens à blanc. D'accord ? Et pour que après, quand ça redescende, alors cette braise, elle soit soutenue et elles maintiennent le derrière durant toute l'année. Donc en réalité, on ne doit pas brimer cet élan-là. De la même manière, il est nécessaire, de la même manière que quand Ajourou, il a donné les premières tables avec tout ce faste et tout ce bruit, d'accord ? En sachant qu'il y avait un danger, que ce danger va se réaliser, que ce danger, c'est la chute avec le vaudor, etc. Et qu'après, on redonnera les deuxièmes tables. Mais donc, les deuxièmes tables, elles se nourrissent du faste des premières. Et ça, ce regard-là, on l'a jamais. Parce qu'en général, on dit, tu sais quoi, il faut démarrer par la pudeur. C'est-à-dire que quand on enseigne, etc., il faut aller doucement, il faut pas te balancer dans la mida, il faut pas faire du bruit, il faut pas crier. C'est ça le derrière, sinon c'est de la gava, tatati, tatata. Et ben, il te dit, tout ça, c'est du flan. Laisse les gens s'exprimer, laisse les gens s'envoler, laisse les gens faire du bruit et développer ce qu'ils ont en eux, comme Abraham Avinu. Et viendra le moment où il y aura Yitzhak. Yitzhak se construit, Yitzhak, c'était la pudeur, il était caché, d'accord, il n'a jamais fait du bruit comme son père, mais cette pudeur s'est construite sur l'aspect extraverti d'Abraham Avinu. Il était là en train de diffuser, donner à manger à tout le monde, venez, on va faire, etc. Vous comprenez?
Mais quand on est dans le texte, on n'a pas envie de tomber dans cet écueil.
Exactement, et c'est ça.
Quoi
c'est
qu'on,
ça.
Quoi qu'on en dise, il y a quand même un écueil qui est tellement dangereux que si on dit qu'on doit absolument passer par là pour finalement récupérer les braises.
Oui.
On a quand même aussi le plan de ça, de tomber de l'autre côté et pas du tout avoir de la braise.
Tu as raison.
Et d'avoir le coup sur la tête.
Et tu as raison. Et pourtant, on voit qu'Aviachol, qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi cette voie, sachant que, Akadosh Baruch Hu, alors bien sûr qu'on n'est pas obligé de chuter et qu'on n'est pas obligé de tout lâcher quand on revient d'Ouman. Enfin, pour reprendre cette expression, parce que je trouve qu'elle est parlante. Mais, même si, sous-entendu, même si ça vaut le coup, parce que cette flamme, elle reste. La flamme, elle reste et elle nourrira après un chemin. Tu vois, même si on abandonne, même si on abandonnait, tu vois, ça fait penser. Il y a plein de références. Enfin, chacun il fait des références avec sa propre vie, hein. Mais Par exemple, quand tu vois des jeunes, ils ont été à la yeshiva quand ils étaient jeunes, d'accord ? Ils sont enflammés, ils étaient, et puis finalement, ils ont lâché tout doucement. Mais il reste quelque chose. Et tu vois, après de nombreuses années, il y a quelque chose qui ressort. Ça veut dire que cette braise-là, elle était nécessaire, elle était là, elle était enfouie, elle ressortira sous une forme un peu différente. Tu comprends ? Alors, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ça son ridouche du Sfat Emet. C'est que de dire que on a l'impression que le mode de présentation des deuxièmes tables est mieux que le premier, et donc on a une question, Kaviyachol contre Hachem. Pourquoi ? Il te dit non, si Hachem il a fait ça, c'est que c'est nécessaire, et que les deuxièmes tables, la pudeur d'un deuxième mariage, ne peut se construire que sur. Tu peux pas demander à une Kala, toi, quelqu'un il a été marié une première fois avec beaucoup de face, il demande à Kala, tu sais quoi, viens, on va se marier en discret. Mais elle a besoin, on a besoin du face du premier mariage pour faire un deuxième mariage dans la discrétion. Alors toi, tu l'as eu, mais tu ne peux pas demander à ta Kala de faire tout doucement. On a besoin de ça. On a besoin de beaucoup de bruit, même si après, avec le recul, on dit, bon, on a été lourd, hein, finalement, de faire tellement de flancs pour ce mariage, et le carrosse, et les traiteurs, et les machins-choses, on aurait pu faire plus discret. C'était tellement plus romantique. Non, c'est pas vrai. Fais les choses en grand, donne de la flamme, donne de la puissance. Quand ça retombera, il en restera toujours un peu. Oui, cher Albert.
Vas-y, c'est aussi, tu parlais d'Ouman, parce que c'est le principe qu'on voit, bon, comme on dit, à Rosh Hashanah ou Kippour, c'est qu'on dit à Rosh Hashanah, tout ça, on prend des forces, on prend un truc, et que ça va nous retenir toute l'année.
Oui.
Et toute l'année, on n'a pas le même truc que le jour même de Rosh Hashanah ou Kippour.
Oui.
Et pourtant, on dit que ça va te tenir toute l'année.
Voilà. C'est la même idée. Oui, mais tu as raison, c'est la même idée, mais le ridouche, c'est que notre Rosh Hashanah, notre Kippour à nous, enfin, quand on se. Je parle pas. Il est dans la discrétion. Tu vois, on n'est pas enflammé. C'est ça que je trouvais le parallèle de Ouman par rapport à notre Rosh Hashanah à nous. Il est comme notre vie dans l'année. Ça veut dire qu'on est calme et on reste calme toute l'année. On est dans la pudeur. Notre fila est dans la pudeur. Donc ça m'a fait tilt. Tu vois, ce Rosh Hashanah dans l'effervescence, dans les chants, dans les danses, on saute sur les tables. Tu vois, les gens, ils sont comme des fous. Pourquoi être comme des fous ? Qu'est-ce que tu gagnes avec ça ? On ne veut pas qu'ils soient comme ça toute l'année. Alors peut-être qu'il y en a qui restent comme ça tout le temps, il y en a. Mais en réalité, les gens, ils redescendent. Mais en réalité, quand on redescend, on reste nourri par la flamme initiale. L'exemple du feu, il est très beau. Tu vois, les braises n'existent que quand il y a un grand feu initial. La même chose. Et la pudeur ne peut se construire. C'est-à-dire, on ne peut pas construire la pudeur si on n'a pas expérimenté l'extériorité. Tu vois ?
Ça qui veut dire. Oui. Moi, je vais te dire, mais le fait qu'il y a eu tout un événement extraordinaire pour le dévoilement de Hachem quand il a donné la Torah, mais je veux dire, il fallait impressionner tous les bénis Israël là, qui sortaient d'Égypte, les impressionner comme quoi c'est un événement exceptionnel, c'est pas une bricole, tu comprends ? Donc il fallait qu'il y ait.
Mais ils ont déjà eu un an de Makot, ils ont eu Yetziat Mitzrayim, ils ont créé Yetziat Souf.
C'est pas pareil, c'est une autre ambiance là, pour les 10 commandements.
Et pourtant Rachid te dit qu'à cause de ça, on a brisé les tables.
Oui, mais comment tu veux faire, puisque c'est un événement exceptionnel, il fallait marquer le coup avec les gens, avec tout.
Et oui, mais d'un autre côté, ça m'a dit une
erreur. C'est négatif.
C'est le problème qui dit Rashi, en ravim et atzniut. Oui, on est toujours pris entre l'ainara, le matu vu, et on dit non, c'est mieux d'être discret, etc. Et c'est Rashi qui le dit, en ravim et atzniut. Alors arrive le Sfat Emet, il dit alors je comprends plus rien. Comment on fait? Tu me dis, il n'y a pas. Il te dit, non, tu ne peux pas faire autrement. Alors, mais pas seulement dans. C'est vrai ce que tu dis, qu'il y avait cet aspect-là d'impressionner et que Kadosh Baruch Hu, c'est un grand dévoilement. Mais ce grand dévoilement, il est nécessaire pour arriver après à une relation plus intime, plus discrète. On est obligé de passer par là. Alors, regardez. On est. Rak. Ouais. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14e ligne. La ligne commence par Tzniut, la pudeur. Rak, seulement, Aliédé, Shekvar, c'est la réponse à ta question. Aliédé, Shekvar, Igdimu, c'est parce qu'ils avaient fait devancer, Bekol et Kolot, avec les voix des voix, c'est parce qu'il y avait eu ce dévoilement à.
D'un Torah.
Très élevé. Nitkayem Acharkar qui a pu se maintenir après Atzniut, la pudeur.
Ah, donc, vous voyez, c'est mots, alors, hein.
Ça veut dire le maintien de la pudeur ne peut exister que si. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un derrière de pudeur et de discrétion si avant on n'a pas expérimenté la flamme. Parce que sinon, la pudeur, elle tient pas, elle peut pas tenir. Donc, oui, je suis modeste, c'est la modestie. Ah, moi, j'ai la modestie. C'est pas ça. La discrétion, faut pas, etc. Ça va bien un moment. Mais après, s'il y a rien, si t'as rien à montrer, tu vois, la discrétion n'existe, c'est très intéressant. La discrétion n'existe que parce que tu sais que t'as beaucoup de choses à montrer et donc tu veux être discret. Mais si t'es discret parce que t'as rien à montrer, alors ça s'appelle pas de la discrétion. La tsniout, oui. La tsniout, c'est parce que justement, il y a quelque chose. C'est à peu près ce qu'on dit dans la tsniout féminine. La tsniout féminine, c'est elle qui est là pour mettre en valeur une grande beauté intérieure. C'est-à-dire, il n'y a de tsniout féminine, enfin, il n'y a. Toute l'idée de la tsniout féminine, c'est parce qu'elle cache quelque chose de très beau. Et donc, en réalité, on sent sous cette pudeur qu'il y a quelque chose, il y a une grande flamme. Tu comprends? Une femme qui n'est pas tsnoua, bon, il n'y a rien à cacher. Une femme qui est tsnoua, c'est-à-dire qu'elle sait, ah, elle a des beaux cheveux, elle a des beaux ci, elle a des beaux ça. Alors donc, le fait de la tsniout, ça montre cette flamme. Quand tu as des braises qui sont bien, bien, bien rouges, tu te dis, waouh, ouais, quelle feuille devait y avoir avant. Donc c'est la même chose. Ça, vous voyez, c'est ça qu'il dit. Que la tsniout ne se maintient qu'à cause de ça. Vézé limoud les dorot. On est au milieu de la page. Et ça, c'est un enseignement pour les générations qui bitrila au départ tsarich liot bitlavut atsum. Il faut être avec une flamme puissante. Vous êtes bon? T'es bon, Michel? Liot bitlavut. Non.
Liot
bitlavut atsum. D'accord? Ça veut dire, là, il fait une conclusion. Il dit que le derrière d'un homme... Bitrila, vous soulignez ça. Vezé limud la dorot, ki bitrila liot, tsarich liot bitlavut atsum. Que, au début d'un chemin, on doit être dans une flamme très puissante. Ve im ki lo ye nishar zot, et même si ça restera pas à itlavut cette flamme, d'avoir chez le kayama une chose qui va se maintenir, im kolze, malgré tout, ou achana, c'est une préparation, Gam limé ayerida acharkar, au moment de la descente après. Alors, c'est comme je vous disais, c'est assez complexe les présentations du Sfat Emet, parce que ça part dans tous les sens, et c'est toujours comme ça. Parce que ici, il présente la tsniout comme une yerida, une descente. D'accord? Vous voyez que pourquoi la tsniout est une yerida? Alors, ça dépend sous quelle forme. C'est vrai que la tsniout, c'est bien, la pudeur, la discrétion, c'est bien, et c'est un derrière qu'on doit. Mais d'un autre côté, la tsniout, c'est finalement la preuve, ou c'est l'expression d'un peu d'enflammement pour une chose. Tu vois, quand on voit des gens, les Baal Tshuva, par rapport à quelqu'un qui a déjà un ancien dans la Torah, si tu vas les comparer, tu dis finalement, ce type-là, il est froid. La froideur. Tu vois, on a l'impression que la pudeur s'apparente à la froideur. Normalement, si quelqu'un il était convaincu, oui, de ce qu'il a, de ce qu'il représente, de ce qu'il porte, il devrait diffuser les choses. Oui, il devrait le montrer, être actif. Tu vois, il devrait être un Lubavitch. Pourquoi on n'est pas tous des Lubavitch? Oui. Et en réalité, lui, il appelle ça une Yerida. Mais pourtant, c'est là où on doit être. On doit être dans la discrétion. Ok, ça, c'est juste des exemples. C'est pas du jugement de valeur. Vers Emet, il dit la vérité. Vous suivez la problématique? Qui mikodem avant, Ayoub né Israël avant quoi? Avant le veau d'or. Voilà. Ayoub né Israël, les ma'alam et ateva. Les bné Israël, ils étaient au-dessus de la nature. Mamash kemalach hacharet, comme des anges. Ça veut dire qu'ils avaient même plus conscience, entre guillemets, de la réalité. Au-dessus de la nature, ça veut dire au-dessus de la réalité, au-dessus des contingences matérielles. Il n'y a pas la honte, les hommes, les femmes, les gens qui m'entourent. On est au-dessus de toutes les problématiques matérielles. Ou comment les a-t-il l'avo? Comme ça sera dans le futur. Sheye avodat aboreit barach, qu'il sera le service du créateur Befarasia. On servira Hachem publiquement. On mettra les tefilines. On n'aura aucune honte et on criera dans la tefila. Et on diffusera ce message-là. Oui, on n'aura pas les contingences de la pudeur et de la discrétion. À l'époque du Mashiach. Oui, oui. Rak baolam azé. Simplement, dans ce monde-ci, tsarich liot be'ester. on doit être caché. Ça veut dire, il faut bien relire, parce que il fait référence, il ouvre à chaque fois des toutes petites portes. Et il faut regarder l'ouverture de la porte au moment où il donne le mot. D'accord ? Et tous ces divrei Torah sont comme ça. Ils sont complexes parce que au travers de du cheminement de son idée, il ouvre des voies latérales. Vous voyez ? Il dit, dans notre monde, on doit être Be'ester. Ça veut dire qu'on est caché, notre message. Tu vois, ça veut dire, un des problèmes qu'on a, c'est qu'on on sait qu'on a un message divin. Et pourtant, on est étouffé dans ce monde. On ne peut pas divulguer les choses, on ne peut pas dire les choses. On est là, à l'intérieur du Beit HaLimoud, en train de se faire notre petit speed entre copains. Mais en réalité, pourquoi on ne diffuse pas aux gens? Pourquoi on ne dit pas à tous nos copains juifs, à notre famille, au goïm, tout ce message-là? C'est que ce n'est pas le derrière, on ne peut pas. Nous, on a un derrière de Esther, dans l'Amazé. Alors qu'en réalité, on devrait diffuser. Obevadaï, mais il est sûr, « Aratzan tzarich liot be'ayin tova » que la volonté profonde, elle doit être avec un bon œil. Ça veut dire avec générosité. L'ishtokek, de s'efforcer, de désirer, les pirsum que votre shemoit barach, de diffuser le nom, l'honneur d'Hachem dans le monde. C'est ça qu'on devrait tendre à. Quand tu as un secret, tu as quelque chose d'extraordinaire, tu as compris quelque chose de beau, tu auras envie de partager avec tous tes copains. Seulement, tu te dis, mais non, on va me prendre pour un allumé si je commence à dire oui. Donc, il faut que je reste à ma place. Mais au début, tu ne faisais pas comme ça. Au début, on est tous allumés. Aval kasher ro'im, regardez bien. Kasher ro'im rov astarot. Mais quand on voit le nombre des masques, les astarot, des cachettes, des obscurités, d'accord ? Les korot asitracha et les forces du mal, asholtim be'alma de shikra, qui règnent dans ce monde du mensonge, tzrichin ba'al kochenu. On est obligé, contre notre gré, l'itnaek be'ester ubitzniut, de se comporter avec discrétion et pudeur. Alors, ces deux phrases, elles mériteraient d'être encore bien, bien développées. Si vous avez remarqué, il dit qu'en réalité, notre comportement de pudeur et de discrétion, oui, il peut être lié à une baisse de puissance, mais il est souvent lié à ce qu'il dit. Si vous avez fait attention, Rov Astarot, la multiplication des masques, des silences. Le Esther, c'est quand Hachem il se cache. Ok ? Hachem il se cache, marqué Esther Astir Panay. Or, on est dans un monde où Hachem il se cache beaucoup. Oui ? C'est-à-dire que la Torah, elle devrait protéger, elle devrait si, et en réalité, on voit que les Juifs, ils sont pas aimés, on voit que les tzadikim y souffrent, on voit qu'il y a des choses qui nous paraissent injustes. Tout ça, c'est des astarot. Et tout ça, ça nous donne des claques. Ça veut dire, on sort chaud, comme ça, d'un chiour ou d'une étude, ou de ce qu'on a compris, et on voudrait dévoiler la présence d'Hachem dans le monde. Mais la réalité, et vous avez vu, il y a deux choses qui vont nous baisser le caquet, c'est Rov Astarot, c'est la multiplication des masques dans le monde, des masques d'Hachem, entre guillemets, les korot asitracha et les forces du mal. C'est-à-dire, on se rend compte que notre flamme, elle se heurte à une réalité qui ne correspond pas à ça. Et donc, ça nous rabaisse notre flamme et ça nous fait dire, bon, je ferais mieux de rester un peu calme. Bon, j'aimerais bien parler à tonton et à mon cousin, comment c'est beau la Torah. D'accord, il va te dire, bon, enfin, t'as pas vu ce qui se passe? Comment on est massacré? T'as pas vu que l'autre, il est malade? T'as pas vu que celui-là... Comment c'est le monde et les handicapés, chacun avec ces trucs-là, qui sont des questions qui nous assaillent, qui sont des vraies questions. Ça s'appelle le Esther. D'accord? La souffrance dans le monde, la difficulté dans le monde, et le fait qu'on te dit oui, tu vas faire la Torah, ça va être beau, ça va être extraordinaire, tu vas voir. Et la réalité, on se rend compte que ben, on a des tzarot, on a des difficultés, depuis que je suis au Shomer Shabbat, c'est un peu plus difficile. Oui? Ça s'appelle du Esther. Ça s'appelle qu'Akadosh Baruch Hu se cache. En réalité, le monde, il devrait pas être comme ça. Le monde, il devrait être quelqu'un qui aimait quand même la Torah. Eh bien, tout s'ouvre. Les portes s'ouvrent, tout va bien. Et le shalom bayit, et les enfants vont bien, et la santé, et la parnassa, tout va bien. Et la réalité, c'est que c'est pas comme ça. Donc, c'est aussi cette idée-là qui développe. On démarre en fanfare, et après, on prend une claque, deux claques, trois claques, et après, on baisse un petit peu, on dit, bon, s'il faut réadapter les choses, réadapter le discours. D'accord ? Eh bien, ce passage-là, c'est les premières tables et les deuxièmes tables. Au milieu, ce qu'on appelait Amalek. Alors c'est vrai que, et c'est pour ça que c'est très intéressant comment il le fait. Amalek, pour nous, oui, c'est le méchant qui vient attaquer les Juifs, etc. Mais ce n'est pas ça, Amalek. Amalek, c'est le venin qui vient rentrer dans ton cœur en te disant « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu vois bien que ce n'est pas comme on t'a dit, comme ci et comme ça. » Celui qui vient te mettre le doute, parce qu'Amalek, c'est la même guématria que ça fait, avec le doute. Donc en réalité, Amalek, ce n'est pas seulement l'attaque frontale, c'est l'attaque intérieure par le biais du doute. C'est lui qui te met le doute. Et donc il te dit Amalek, il va te faire baisser de régime et tu vas te retrouver comme les deuxièmes tables avec la tsniout. Mais le chidoujus va t'émettre, c'est que c'est pas grave. On a besoin de ça. S'il n'y avait pas la flamme de départ, s'il n'y avait pas l'enthousiasme qu'on a et la émouna profonde, le jour où Amalek il vient, on est fini, on est à zéro. Heureusement qu'on est parti de 100 pour arriver à 50 à cause d'Amalek. Mais si tu pars de 50, tu passes à zéro direct. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il a donné les tables avec ce grand faste, pour que malgré l'influence de ce Amalek, ou ce qu'il a parlé, les Kochot Astara, les forces du silence, d'accord, ce silence d'Hachem dans le monde, c'est ce qu'on appelle le Esther, et bien malgré ça, on reste quand même debout. Tzrim, voilà. Ve'amarnu. Ve'amarnu, je fais vite. Ve'amarnu la shanze, et on a dit ce langage-là, en yafé minatzniut, que ce que dit Rashi, il n'y a pas plus beau que la pudeur. Donc en réalité, il n'y a pas plus beau que la pudeur. Il faut modifier ça. Pas initialement. Il n'y a pas plus beau que la pudeur qui se construit sur le faste. C'est ça le chidouche. Vous voyez ? Et bien, c'est un grand chidouche. Parce que c'est vrai que par formation, par approche, on essaye toujours de dire que oui, l'objectif sur la pudeur, et si on commence par la pudeur, c'est bien. Il te dit non, on ne doit pas commencer par la pudeur dans le derrière, on doit commencer par la flamme. D'accord ? Ou qu'il a chanté Mishnah. Il dit, ça reprend le même langage de la Mishnah dans Pirkei Avot. Je ne sais pas si Pirkei Avot, ça. Yafa, oui. Yafa sha'achat bitchuva ma'asim tovim ba'olam hazeh, que c'est plus beau une heure de tchouva et de bonnes actions dans ce monde-ci, mikol chaya olam hava, plus que le monde futur. Ça veut dire quoi ? She'im beli safek, que si c'est sans aucun doute, gadlak dushat olam hava, que elle est grande la sainteté du olam hava, be'yeter se'et, avait beaucoup plus de puissance par rapport au olam hazeh, ach, yeshchen lefanavit barach, il y a de la grâce devant Hachem, ba'avodat ha'adam ba'olam hazeh yoter, dans le travail de l'homme dans ce monde-ci. Ou que moken, et de la même manière, atzniut ou tav bene aborid barach, la discrétion, la pudeur, après il faudrait redéfinir ce qu'on entend par tzniut, mais bon, avec ce qu'on a dit, ça prend forme. Ou tav bene aborid barach, ça plaît aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, qui il est matam imadregat luchot lishonot, même si c'est inférieur aux premières luchot. Oui, ça veut dire que c'est ça qu'a dit la Mishnah. C'est mieux une heure de tshuva et de masim bamim dans ce monde-ci que tout le olam haba. Mais comment olam haba, c'est là où les choses elles seront dévoilées. Il te dit c'est vrai, mais c'est olam hazé, c'est la tzniout, olam haba, c'est le faste. Ok? Ve'u keitron abal tshuva tzadik gamur. C'est la différence entre un bal tshuva et un tzadik gamur. Ve'ine kadvarim ha'ele evinu bnei Israël. Et ces choses-là, ils les ont comprises, les bnei Israël, gam bereshit ha'inyan. Ce processus, ils l'ont compris dès le départ. Ve'amru, ils ont dit, daver ata itanu pen namut. Dès qu'Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah, oui, les deux premiers commandements, les bnei Israël, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, parle-toi avec nous, fais l'intermédiaire, pen namut, de peur qu'on meure. Ve'lo utav ben Moshe Rabbeinu. Et ça n'a pas plu ça à Moshe Rabbeinu, la chair ou à la vachalom loyal au negia bezéachet, parce que Moshe Rabbeinu n'avait pas cet intérêt. Bon, là, ça se complique un peu, il faut développer, donc on va juste lire ça. Aval bnei Israël, lev yodé amarat navcho, mais les bnei Israël, ils ont compris ça, qu'il y avait un danger dans le faste, veiskim akadosh Baruch Hu l'idvarem, akadosh Baruch Hu, il a été d'accord avec eux, que Moshe Rabbeinu komacham aizé. Bon, mais là, il a développé tout un point qui sort un peu du propos. On lui dit qu'en réalité, les Bnei Israël, ils ont perçu tout de suite le danger du faste et ils ont voulu une relation beaucoup plus discrète. Et Akadosh Baruch Hu a dit non, il y a besoin. Akadosh Baruch Hu, au départ, il a dit, il y a besoin d'éclater tout, et après on redescendra d'un cran, même au risque de chuter par la Yerida. Donc c'est ça le grand chidouche, que en lecha yafeminatsiut, il n'y a pas de plus beau que la pudeur, dans la mesure où cette pudeur, elle s'inscrit dans un faste antérieur. Et ça, c'est valable dans tous les drachim, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on est face à des problèmes tellement puissants, d'accord, ou des attaques et des doutes tellement puissants, on est obligé de se comporter avec pudeur. On ne peut pas, sinon on est déséquilibré. Chavez!
Alors, il y a quelque chose qui est assez...